On parle d'une librairie, Claude.
Au nom génial, La Chouette qui lit. Et cette librairie, nous dit Lacroix, a changé la vie des lecteurs de Marciac dans le Gers, célèbre pour son jazz. Parce qu'avant, il fallait rouler 45 minutes pour acheter un bouquin. La Chouette a été ouverte en septembre 2020 par un couple venu de Grenoble, Gaël et Richard, qui aiment réciter de la poésie. Et depuis, le journal du Gers et La Dépêche nous donnent de ses nouvelles. C'est un auteur qui vient en dédicace, ou une déambulation poétique en mars dernier, quand on protestait contre la fermeture des lieux culturels. Et donc ce matin, dans un article de Cristal, Lacroix à son tour nous parle de La Chouette, où la libraire Gaël ne veut plus vendre des livres qui font polémique ou séparent les gens, mais simplement des ouvrages qui nous aideront à vivre. Cet auteur en vitrine, prennent un livre d'engagement écologiste, Animal, de Cyril Dion, et d'un roman d'anticipation, Orgel, d'Emmanuel Salasque. Gaël propose un livre à couverture noire qui, au commencement, n'était qu'un mémoire d'étudiant. Et ce mémoire, et c'est qu'une reste de la pensée d'un homme supplicié, devenu symbole de notre liberté, qui, dans la vraie vie, celle de l'enfance, des souvenirs, de l'amour, était le frère de Gaël. Gaël, la libraire, est la sœur de Samuel Paty, professeur assassiné en octobre 2020 après un cours sur la liberté d'expression et une cabale d'islamistes. Samuel Paty, qui jeune homme, avait donc écrit « Le noir, société et symbolique », dans lequel Gaël le retrouve « C'était un pur intellectuel, mon frère », dit-elle à Lacroix, dans des confidences de « Je ne veux rien dévoiler qui vous dissuaderait de les lire vous-même ». C'est un texte précieux d'une sœur pour son frère, auquel, légende familiale, papa, instituteur, lisait l'histoire de France en guide de contes enfantins. Gaël avait ouvert sa librairie un mois avant que l'on ne tue Samuel, et depuis les livres l'aident aussi la douleur des lecteurs de Marciac, où après le drame, une vieille dame est entrée dans la librairie pour lui donner un paquet de gâteaux acheté à la boulangerie d'en face, avant de partir en courant. Dans un article du Monde, nous apparaît une autre sœur qui transmet l'idéal de son frère martyr, mais ce frère avait choisi le destin des révolutionnaires. Le 11 octobre 1987, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, avait fait venir sa sœur Blandine. Il avait besoin de se confier, de me transmettre un message sur la famille, sur ses valeurs, se souvient la sœur. Alors nous revivons les derniers jours d'un révolutionnaire qui savait qu'un compagnon d'armes en qui il voyait son frère était devenu un ennemi, Blaise Compaoré, qui ralliait ce que fatiguait la ferveur révolutionnaire de Sankara, qui n'autorisait la climatisation dans les bureaux qu'un mois par an. Sankara serait assassiné, Compaoré prendrait le pouvoir, il y aurait des fêtes et de l'argent facile. Un procès commence aujourd'hui enfin à Ouagadougou, où l'on va juger ceux qui firent tuer Sankara, dont Libération, l'Humanité, le site du Figaro notamment, nous font revivre l'espérance. Compaoré en exil en Côte d'Ivoire ne va pas comparaître. Blandine dit que ça leur a aidé de voir devant elle le frère de son frère. Dans le Béret républicain, c'est étrange de lire cela aujourd'hui, vous apprendrez que le château Saint-Hubert à Neuvy-sur-Barangeon est en vente. Cette bâtisse fut dans les années 70 achetée par Jean-Bedel Bokassa, président puis empereur de Centrafrique, qui incarnait les régimes délétères d'Afrique, dont Sankara était, à contrario, l'espérance.
Vous nous parlez aussi d'héritage.
Dans Usbek et Ricard, remarquable revue qui renverse l'histoire et la prend à l'endroit. Non plus le culte du passé, mais le don de ressentir ceux qui viendront après nous. Usbek et Ricard nous lance un défi. Comment être de bons ancêtres? L'expression vient d'un biologiste des années 70. Elle est devenue essentielle quand nous abîmons la terre de nos descendants. Un philosophe australien, pas encore traduit en France, Roman Krznaric, dit que nous colonisons le futur comme jadis nous colonisions des terres dont nous pensions qu'elles n'appartenaient à personne. Son livre traduit et déjà la revue mériteront d'être choisis par La Chouette qui lit à Marciac. Dans Ouest-France, vous lirez que l'île de Molène, 72 hectares verdoyants au large des côtes du Finistère, label de réserve naturelle de biosphère, estampillée UNESCO, va enfin se débarrasser de sa centrale au fioul qui alimente les réfrigérateurs de ses 151 habitants. Bientôt viendra une ferme photovoltaïque qui rendra Molène indépendante. C'est le bijou d'un dossier de Ouest-France sur ces îles qui, en avant de nous, pensent à demain et se débarrassent du carbone.
Et on parle enfin de violons, Claude.
Dans le Figaro, qui nous dit la splendeur des Stradivarius, violons envoûtants que le maître de Crémone, Antonio Stradivari, assemblait entre les 17e et 18e siècles à partir du bois d'un arbre d'Europe centrale, l'érable ondé, et qu'il lissait d'un vernis à l'huile dont le secret venait du Moyen-Âge. Le Figaro nous raconte des mythes, des légendes. Un film qui va sortir, qui raconte la quête dans une forêt bosniaque de l'érable ondé parfait par un luthier d'aujourd'hui. Et puis le bonheur de la violoniste Janine Janssen, qui pour un disque a pu jouer de 12 Stradivarius légendaires. On nous dit que la magie d'un violon n'est pas tant le son qu'il produit que l'inspiration qu'il suggère à celui qui en joue. Dans la Dépêche et l'Indépendant, on nous dit la beauté des rugbymen à 13 de Toulouse, qui en vainquant les Anglais de Featherstone, ont gagné leur droit de rejoindre dans l'élite absolue la Super League, les Dragons catalans, finalistes malheureux contre Saint-Hélène, quel nom, et qui pestent contre l'arbitre, lisez ces goûteux. Les footballeurs espagnols aussi pestent contre l'arbitre de leur finale de Ligue des Nations, contre nous Français vainqueurs. Mais n'était-il pas un peu hors-jeu Kylian Mbappé ? L'équipe, en dépit de sa joie et de son titre, une autre coupe à la maison, ne semble pas convaincue de notre bonne fortune dans un article discret mais honnête. Chapeau confrère.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.